Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Évoquer les insuffisances des services publics quand on parle de l'école ou de l'hôpital, c'est une banalité. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller au-delà du ressenti pour analyser ce phénomène. Il est à nouveau dans l'actualité avec les déclarations du ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, qui, dit-il, veut lever le tabou de la licenciement sans, ajoutait-il, remettre en cause la garantie de l'emploi. Pour préparer l'émission, je me suis appuyé sur le collectif transpartisan Nos services publics, collectif national, et son rapport sur l'état des services publics, copieux rapport, présenté en septembre dernier. Mes deux invités vont croiser leurs regards, Muriel Cosman et Cyria Boucher-Maillet. Merci d'avoir accepté d'échanger au micro de Divergence FM. Muriel Cosman, vous êtes orthophoniste, engagée notamment comme porte-parole de l'association montpelliéraine Une école, un avenir. Cyria Boucher-Maillet, vous êtes chercheur, docteur en sociologie, signataire de l'appel pour des services publics, aux côtés, entre autres, de Sophie Binet, CGT, Cécile Duflo, pardon, Oxfam, Simon Duteil, Solidaire, Marie-Gare Athédé-Carmonde, Florence Rigal, Médecins du Monde, Christophe Robert, Fondation Abbé Pierre, Anton Sueur, Emmaüs, ainsi que Benoît Test, FSU. Cette longue liste pour montrer le caractère très ouvert, très unitaire de cette initiative et qui m'a donc conduit à vous choisir l'un et l'autre comme participant à cette réflexion commune. Mais avant de parler des services publics, vous connaissez la formule de l'émission, racontez-nous votre Montpellier. Muriel, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, que vous êtes attachée et pourquoi ?
Alors moi, je suis une montpelliéraine d'adoption. Je suis arrivée ici en 2019 et j'ai adoré et je continue d'adorer le quartier dans lequel je vis. Et oui, c'est un peu la carte postale du petit village, finalement, du sud de la France. C'est le quartier des Beaux-Arts, ouais, dans lequel vous êtes vous-même installé. Et qui, pour moi, malgré l'urbanité, malgré le fait que ce soit que Montpellier soit une ville extrêmement dense et variée, bah voilà, ce quartier, pour moi, garde son âme avec ses commerçants, avec sa mixité sociale, avec ses nombreuses associations et voilà, sa vie riche et bouillonnante.
Très bien. Alors, et vous-même ?
Ben pour moi, je suis arrivé à Montpellier en 2012, au moment des études. Donc, Montpellier, pour moi, c'est une expérience, une ville étudiante. Donc, je l'ai d'abord expérimenté de la sorte. Je suis arrivé donc d'un petit village Cévenol, ouais, entre Saint-Hippolyte-du-Fort et Anduze, qui s'appelle Monoblé. Et donc, pour moi, Montpellier s'organise beaucoup, en tout cas la manière dont je le vis, autour du quartier hôpitaux-faculté, où j'ai étudié, où je travaille aujourd'hui. Et c'est sûrement le quartier que je connais le mieux. Ensuite, j'ai également résidé entre les Arceaux, Celle-Neuve et le Stade Philippides, un peu dans ce triangle-là. Il s'agit de quartiers résidentiels calmes, bien desservis, proches de l'Écusson, avec une vie de quartier dans lesquels j'ai beaucoup apprécié vivre. Et enfin, l'Écusson pour sortir, rencontrer des amis, etc. C'est la troisième composante, on va dire, de mon Montpellier.
Voilà, donc à chaque auditrice et auditeur de prendre parti là des indications que vous leur donnez pour leur propre péril personnel dans notre ville. Et alors, quand vous recevez des amis de passage ou des parents, que leur dites-vous de Montpellier ? En quoi, selon vous, Montpellier est caractéristique ? Quel est la Montpellier touch ou le style montpelliérain qui distinguerait cette ville des autres ?
Pour moi, je vais rester sur les questions universitaires, on va dire. C'est vrai que Montpellier est caractérisé par l'histoire de son université, avec une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille, université de médecine, et par un nombre d'étudiants relativement important, puisqu'il y a environ 70 000 étudiants à Montpellier pour une population municipale qui représente à peu près 4 fois plus, donc ça fait une grosse représentation d'étudiants. Et ensuite, Montpellier est aussi marqué par sa situation géographique, selon moi. Je l'ai dit il y a quelques minutes, je suis originaire des Cévennes, donc il y a les Cévennes à proximité. Il y a aussi la côte, pas très loin, avec une côte très proche, Palavas, Carnon, la Grande Motte. Et un peu plus loin, les Spiguettes et le début de la Camargue, et Sète de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est des endroits que je recommande de visiter. Ensuite, Montpellier, c'est aussi une architecture particulière en évolution constante avec une forte urbanisation. Et généralement, je recommande aux personnes de faire une traversée de Montpellier en débutant par le Pérou, passer sous l'Arc de Triomphe, descendre la rue Foch, descendre ensuite la rue de la Loge, traverser la Comédie, traverser le Polygone et ensuite marcher jusqu'à l'hôtel de région. Depuis quelques années maintenant, peut-être prolonger au-delà de la nouvelle mairie, dans les nouveaux quartiers qui ont été construits. Et on voit bien de ce fait la diversité architecturale de Montpellier.
Oui, oui. Par parenthèse, c'est exactement ce que j'ai fait avec mes anciens camarades de l'école de journalisme pour leur raconter Montpellier spatialement et historiquement. Et alors vous, Muriel, que dites-vous à vos amis ?
Alors moi, c'est assez marrant parce que je pense que j'ai à peu près aussi le même périple et le même conseil à donner. Je pense que le voyage à faire dans Montpellier par ce trajet-là est assez sympathique à faire et raconte vraiment Montpellier historiquement et architecturalement. Et je rejoins aussi Cyriac sur l'aspect du positionnement de cette ville qui est particulier, qui est un peu entre l'ouest et l'est du pays, mais bien ancré au sud. Et quand même, c'est une ville qui est, à mon sens, à mon avis, méditerranéenne, qui peut-être gagnerait à se pencher encore davantage sur le côté méditerranéen,
ah oui,
et le côté maritime.
Marquer davantage
cette
identité méditerranéenne.
C'est un point essentiel pour moi, le fait que ce soit... Ça a été un choix d'ailleurs d'installation, d'avoir une ville très à proximité de la mer, et de la Méditerranée particulièrement.
Très bien. Alors, on va revenir à un sujet plus sérieux, mais c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui, les services publics. Alors, je rappelle qu'ils peuvent être assurés par une administration, une entreprise publique ou un établissement public pour avoir une vision d'ensemble, et qu'il y a trois fonctions publiques, le sont de base, la fonction publique d'État, les services de l'État, la fonction publique hospitalière, on voit ce dont il s'agit, et la fonction publique dite territoriale, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les collectivités locales. Alors, première question à chacun de vous, Muriel d'abord. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans la défense des services publics, bon, notamment l'école, mais pas seulement, là. Quel est le ressort de cet engagement ?
Moi, j'ai rejoint le collectif Nos services publics il y a très peu de temps, mais c'est un sujet, un domaine de prédilection pour moi, qui a été militante politique de gauche, et pour qui, en fait, les services publics représentent une sorte de pilier républicain extrêmement important au sens de la cohésion sociale et des principes garantis par la République, et notamment l'égalité, la fraternité.
Oui. Ouais. L'égalité d'accès aux services publics eux-mêmes, d'ailleurs, on
en parlera. C'est un principe, effectivement, cardinal des services publics. Et étant de gauche, moi, j'estime que, véritablement, les services publics et leur mission d'intérêt général qu'ils portent, c'est à défendre notamment parce qu'on a la sensation, et c'est pas qu'une sensation, on y reviendra, qu'ils sont profondément attaqués. Voilà, et qu'en fait, prendre la politique par le biais de la défense des services publics, c'est toucher à de nombreux domaines, notamment la santé, l'éducation, l'accueil aussi des personnes qui arrivent sur notre territoire. C'est parler éventuellement de défense du territoire, c'est parler de plein de sujets différents par ce prisme.
Très bien.
Et parler des besoins de la population, notamment.
Alors, même question, Cyria, quel a été le déclic de cet engagement que ça a conduit à signer l'appel du collectif Nos services publics ?
En ce qui me concerne, c'est vrai que parler d'engagement, c'est peut-être un grand mot, puisque finalement, j'ai simplement signé un appel. Je ne suis pas à l'initiative de la rédaction de cet appel. J'ai pris cette signature-là comme j'aurais pu aller, et comme je vais pouvoir aller voter aux européennes, aller voter aux présidentielles, aux municipales, à différentes sortes d'élections professionnelles, etc.
Une réaction, quelque chose qui relève du civique, quoi, d'un engagement, en tant que citoyen.
Oui, d'un engagement civique qui mêle finalement mes expériences personnelles, mes analyses du monde qui m'entoure, et également le résultat de certaines enquêtes. Alors, si je m'interroge sur l'origine de ce soutien à cet appel, je dirais qu'il vient d'une tragique individuelle qui a été marquée notamment dans ce petit village Chevenol que j'ai évoqué en début d'émission, j'y reviens beaucoup, mais par une lutte constante, notamment de la municipalité, pour préserver le nombre d'élèves suffisant pour maintenir l'école ouverte, pour faire en sorte que un bureau de poste soit maintenu dans le village, et donc une tendance finalement de ces services publics à quitter la ruralité, et une forte intention en tout cas des personnes qui habitent ces espaces à tenter de les maintenir. Donc ça c'est plutôt sur mon expérience personnelle au long cours, et puis plus récemment j'ai conduit une enquête doctorale qui s'intéressait notamment aux politiques de prévention du VIH et à la manière dont elles sont reçues par les hommes qui demandent l'asile en raison de leur orientation sexuelle, qui m'a permis de pointer du doigt un certain nombre d'inégalités et de problématiques. En parallèle de cette thèse de doctorat, j'ai mené aux côtés de collègues jeunes chercheurs, doctorants, une enquête sur les conditions de formation et de professionnalisation des jeunes chercheurs en sciences sociales qui nous a également permis de pointer quelques ce qu'on identifie comme des dysfonctionnements ou quelques points compliqués pour l'exercice de ces professions.
Voilà, donc des éléments de diagnostic, c'était un peu d'ailleurs c'était ma question suivante. Muriel, à grands traits, vous l'avez évoqué dans votre réponse précédente, qu'est-ce que vous avez constaté, je veux dire, tout simplement, comme tout un chacun, dans ce qu'on peut appeler quand même le recul ou la dégradation de la qualité des services publics dans notre pays?
Alors, sur le terrain, moi, je peux parler de mon expérience. Je suis orthophoniste, je travaille en libéral, je ne suis pas dans un service public à proprement parler, mais je fais partie du fonctionnement d'un service public au sens élargi. Puisqu'en plus, la majeure partie de ma rémunération, elle passe par les cotisations sociales de toutes et tous. Je reçois beaucoup de patients, notamment beaucoup d'enfants, et des enfants de toutes origines. Potentiellement, je dirais que ce que je vois arriver depuis quelques années, c'est des services qui jusque-là étaient un petit peu invisibilisés, comme par exemple l'aide sociale à l'enfance, jouaient encore leur rôle. Et là, progressivement, on voit que par ces petits bouts-là, par les endroits où les personnes auxquelles le service public devrait venir vraiment en aide majoritairement, ils sont les plus fragiles, les enfants les plus démunis, les enfants qui ont été abandonnés, et bien ceux-là, je vois déjà depuis quelques années une dégradation massive, une dégradation du service, une dégradation des conditions de travail des gens qui assurent cette fonction-là. Je le vois donc à travers mon prisme de l'enfance, à travers le prisme de la santé, par le fait qu'il est très difficile de trouver des places correctes dans des EHPAD, qu'il est très difficile d'orienter les gens dans des services, par le fait que ce n'est pas toujours très facile d'avoir un médecin traitant, y compris dans une ville qui attire énormément les médecins. Donc, on n'est pas sur un territoire, de ce point de vue-là,
dépourvu. Oui.
Voilà, ce n'est pas du tout un désert. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Je le vois à travers mon engagement dans l'association Une école, un avenir, qui est une association purement locale de défense du service public de l'éducation nationale, mais vraiment sur le territoire montpelliérain. Il est très difficile pour les usagers du service public d'avoir du dialogue avec les collectivités territoriales ou avec les représentants de l'État sur le territoire, en l'occurrence le rectorat, l'académie, etc. Je le vois à titre personnel dans la façon dont les gens rapportent leurs difficultés à avoir effectivement un contact concret quand tout se dématérialise, tout se numérise, par exemple. Donc voilà, ça c'est sur le terrain, c'est du ressenti, c'est du vécu. Après, il y a des chiffres.
Bien sûr. Alors, précisément, on poursuit dans cette même veine. Élaborer à partir des contributions d'agents et agentes de terrain, de chercheuses et de chercheurs, de cas, de citoyens et citoyennes, le rapport sur l'état des services publics, national donc, sur lequel s'appuie la démarche et le manifeste, l'appel pour nos services publics, pose un diagnostic. Il ne se limite pas à la description de leur dégradation. Il met en relief un écart croissant entre les besoins qui ont progressé ou qui ont changé. Partagez-vous cette idée que les besoins sociaux sont en forte évolution du côté de ce que peut être la demande telle que vous le vivez, sans pour autant, même vous avez évoqué des exemples précis, cette idée que les besoins n'ont pas diminué comme on pourrait le penser, mais en fait ils sont toujours extrêmement forts, prégnants, voire en augmentation.
Oui, effectivement, d'un côté, je dirais oui et non, en fait. Les besoins fondamentaux, donc les questions, donc accéder à la santé, à l'éducation, ça n'a pas évolué. En revanche, les problématiques de santé, par exemple, ou d'éducation, sont de plus en plus importants. L'investissement lié à ces deux axes, la santé et l'éducation, n'est pas forcément à la hauteur. Alors, pour ça, je m'appuierai sur un exemple, en commençant par les questions relatives à la recherche ou à l'enseignement supérieur à la recherche. Puisque entre 2000 et 2020, le nombre d'étudiants à l'université il a augmenté d'un tiers.
Donc ça, au plan national.
Au plan national, oui. Selon un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation en France, qui a été publié par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors que le nombre d'enseignants sur la même période, il est resté stable. Donc cela se traduit donc par une grande partie des enseignements qui sont assurés par des doctorants, des jeunes docteurs non titulaires, sous forme de vacations le plus souvent, payés à l'heure effectivement donnée, donc 41 euros brut de l'heure pour arriver sur des choses très concrètes. Sauf que lorsque l'on prend en compte les heures de préparation, les heures de correction et aussi des fois les heures de surveillance d'examen ou de coordination pédagogique, on estime que pour une heure d'enseignement donné, il faut compter 6 heures au total de travail effectif. Si l'on divise les 41 euros bruts par 6, on arrive à 7 euros bruts de l'heure, ce qui fait à peu près 5 euros et quelques de net de l'heure, ce qui pose pour moi un certain nombre de problèmes. Le problème des vacataires se pose donc à l'échelle collective en termes de cohérence dans les enseignements, les uns par rapport aux autres, car il faut rajouter donc à toutes ces heures une coordination collective et au sein de l'équipe pédagogique qui se surajoute à cette charge-là qui n'est pas considérée. Or, les vacataires restent finalement au cœur de l'enseignement supérieur et se satisfassent d'une certaine manière, ou en tout cas tolèrent ces conditions de travail que j'estime dégradées, parce que c'est une attente de donner des enseignements, de dispenser des enseignements à l'université, si on espère être recruté comme titulaire dans un second temps, au moment des concours de recrutement, dans un contexte où il y a énormément de concurrence, il faut bien avoir en tête que la moyenne d'âge de recrutement d'un maître de conférence, donc un enseignant-chercheur, c'est le premier statut, est de 34 ans. Que finalement, ce temps-là avant un recrutement prolonge les périodes d'insécurité financière, l'instabilité géographique, puisqu'on vit de petits contrats, pas forcément tout le temps dans la même université, donc d'instabilité géographique et de précarité aussi. Donc l'enquête qu'on a menée auprès des jeunes chercheurs, elle montre la manière dont ces situations de précarité et ce manque de reconnaissance, malgré une trajectoire universitaire plutôt brillante, participe à la dégradation de la santé mentale et participe à accroître l'épuisement professionnel des personnes concernées.
Pour préciser, même si vous avez donné beaucoup d'infos, on a l'idée que quelqu'un brillamment diplômé, qui est thésard ou en passe de lettres et un peu hors d'atteinte des phénomènes de précarité que d'autres pans de la société ou d'autres secteurs professionnels connaissent, ce n'est pas le cas.
Non, effectivement, c'est vraiment pas le cas. Et puis c'est tout. Effectivement,
alors, je peux reprendre. Vous avez évoqué le domaine de la santé, puisque tu es professionnel de santé dans votre spécialité. Comment ça se traduit? Est-ce que là aussi, il y a des besoins nouveaux? Je parle par exemple, je crois que le rapport l'évoque, les maladies chroniques, en tout cas des prises en charge, que l'évolution de la société et l'évolution des réponses médicales ou de santé à ces problèmes permettrait de trouver la réponse. En sorte, la réponse ne vient pas toujours, vient partiellement.
Alors oui, si on parle de corrélation entre la mise en, enfin, l'évaluation des besoins et la mise en relation des moyens mis en face, il est certain qu'il y a une distorsion très importante. C'est-à-dire que moi, j'imagine que les gouvernants pilotent les choses avec une feuille de route qui tient en, enfin, qui prend en considération les besoins réels et non fantasmés. C'est-à-dire, les chiffres donnent des indicateurs, bien sûr, mais il y a aussi des réalités. Et clairement, les besoins en santé augmentent avec le grand âge qui arrive. Oui, les progrès de la médecine favorisent le fait qu'on arrive à des âges maintenant bien plus avancés, plus tardifs, mais la question de l'autonomie se pose. Et la démographie nous montre bien que, bien évidemment, il y a toute une classe d'âge qui va arriver avec des difficultés d'autonomie majeures. Il y a effectivement, comme vous l'évoquiez, l'augmentation des maladies chroniques. Et cette chronicisation, elle modifie considérablement les prises en charge des patients. Donc, on peut piloter comme ça à vue en se disant que, bien, effectivement, les progrès médicaux, l'ambulatoire, etc., va régler des choses. En réalité, ce que nous montrent les besoins des patients, c'est qu'on a besoin de modifier les prises en charge, de modifier l'entourage aussi des patients, de modifier la façon dont on va prodiguer des soins. Ça, c'est une... Il n'y a pas que des besoins humains, mais il y a aussi une modification peut-être de l'agencement des soins. Qu'est-ce qu'on met dans le panier de soins? Qui décide finalement aussi qui... La décision démocratique aussi est une question importante pour mais décider
la
des...
La décision démocratique, je vous coupe, pour voir comment se constitue le renouvellement de l'offre enfin, de soins. C'est comment l'organisation même de la santé.
C'est-à-dire qu'à mon avis, il est essentiel d'associer la population dans les prises de décision, c'est-à-dire de quoi a-t-on besoin ? Qu'est-ce qu'une personne de quoi une personne qui arrive dans le grand âge a-t-elle besoin ? Comment s'organisent aujourd'hui les familles françaises pour prendre en considération le grand âge d'un aîné ? Évidemment, la société, elle a évolué, les femmes travaillent davantage. Donc, que ce soit pour la petite enfance ou pour le grand âge, on a des besoins très importants, qui sont à mon avis croissants. Parce qu'on ne reviendra pas en arrière sur le travail des femmes, je pense, et je ne le souhaite pas. Et je crois qu'autour de la table, personne ne le souhaite. Donc évidemment, il y a des besoins croissants. Et puis, on a des impératifs aussi en termes d'écologie. Comment on fait pour organiser des transports correctement? Comment est-ce qu'on fait pour anticiper et pallier au réchauffement climatique si c'est un objectif? Alors, tout ça, ce sont des besoins qui n'existaient pas ou qu'on ne prenait pas en considération il y a quelques années, qui deviennent des enjeux majeurs et dont il faudrait opérer très rapidement des modifications. Alors, dans les choix politiques, j'entends.
On fait pas bien sûr le tour complet de la question, mais on va aborder quand même un point qui me paraît extrêmement important, c'est un phénomène qui est le développement d'une offre privée, notamment dans l'éducation et dans la santé, offre qui souvent en plus bénéficie de financements publics. Comment, selon vous, se manifeste ce phénomène et quelles en sont les conséquences? Et puis, bien sûr, je poserai la même question à Cyriac.
Bon, alors, dans le domaine de l'éducation, on a quand même eu une ministre relativement merveilleuse, qui est toujours ministre aujourd'hui, puisqu'elle va s'occuper des Jeux Olympiques, Madame Oudéa Castéra, qui nous a fait une démonstration vraiment brillante et implacable de ce que le financement public créer des ghettos, en fait, privés, largement financés. Alors, ça passait un peu sous les radars que tout ce pan-là de l'éducation nationale, on avait l'impression que finalement, le privé était légitime par le fait qu'il se finançait lui-même. Hein. Donc, finalement, je suis libre de quitter l'enseignement public, je finance moi-même un financement privé, c'est ma liberté, comme elle l'avait elle-même énoncé par rapport à ses propres enfants. Mais en réalité, le financement public est massif, vraiment massif, pour créer la possibilité de sortir, en fait, du système public et du coup, créer des systèmes à deux vitesses. Alors, c'est permis, c'est autorisé de manière... Moi, je serais pour la suppression totale de ce système-là. Mais il faut voir, en plus, que c'est totalement organisé. Là, on parle... Bon, pour l'éducation, on parle de quelque chose qui est ancien et qui part déjà d'un enseignement qui était majoritairement privé il y a quelques années, avant qu'il y ait une massification scolaire qui arrive et une volonté de rendre l'enseignement public. Mais dans l'hôpital, dans la santé, on assiste à quelque chose qui est vraiment pervers, c'est-à-dire, et dans l'éducation nationale aussi, hein, en fait, à force d'avoir des services publics qui dysfonctionnent, on organise même le dysfonctionnement de manière à aller progressivement vers du privé et à le justifier. Et à le justifier complètement en disant que finalement, bah, comme ça a été des constats déjà faits, hein, on accuse, pour mieux piquer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, bien c'est ça qui s'organise. Et là, par exemple, je vais vous donner quelque chose qui, à mon sens, est assez choquant. On a un manque cruel d'accompagnants d'enfants en situation de handicap sur le territoire montpelliérain, sur l'Occitanie et puis en général sur tout le territoire français, national et métropolitain et ailleurs. Ce manque de personnel qui viendrait en aide aux enfants en situation de handicap, par la nouvelle loi qui est passée par 49.3, cela dit, eh bien maintenant il va être totalement possible d'embaucher des gens dans le privé pour pouvoir accompagner son enfant à l'école. Voilà comment ça s'organise. C'est-à-dire que l'État ne va pas jouer sa fonction. L'État se défausse complètement et dit, bien, puisque nous ne sommes pas en mesure d'embaucher des gens en nombre suffisant ou suffisamment qualifiés, eh bien, vous aurez le droit de faire venir à l'école quelqu'un que vous aurez embauché vous-même. Vous voyez progressivement. Donc, oui, ça a l'air d'être du bon sens, hein, bien sûr, pour quelqu'un, pour une famille qui a un enfant... Qui en
comme
une
espèce de glissement progressif, mais pour le coup, un glissement qui est organisé.
Ah, c'est une invasion progressive à tous les étages.
Alors, même chose en observant l'univers public dans lequel vous évoluez. Là, quelles sont vos vues là, sur ce point?
Moi, je répondrai de deux manières. D'une première façon, en m'appuyant sur le rapport, à une échelle plutôt méta, on va dire, pour ce qui concerne l'éducation, le rapport il indique que la privatisation de l'éducation réduit la mixité sociale. Bon, sans être en mesure de m'appuyer sur des données précises qui, j'imagine, doivent exister, je suis prêt à parier qu'il en est de même, finalement, pour les structures privées dans le domaine de la santé. Par contre, je vais m'appuyer sur vous faire part de certaines observations que j'ai
brièvement
réalisées dans ma thèse. Donc, j'ai observé finalement la manière dont les associations de prévention du VIH, dans une période où nous avons finalement les moyens de maîtriser l'épidémie avec les traitements qu'on a à disposition, comment ces associations-là sont incitées par les pouvoirs publics à solliciter des financements auprès d'acteurs privés. Donc c'est Mathieu Ely, qui est un sociologue à Paris-Nanterre, qualifie finalement ce processus de désétatisation de l'intérêt général. Donc les acteurs privés sont le plus souvent donc des laboratoires pharmaceutiques produisant les traitements contre le VIH qui finalement défiscalisent une partie de l'argent qui donne aux associations. Et donc on peut avoir la réflexion de se dire finalement la défiscalisation est un levier pour accroître la contribution. Or, il me semble que c'est un peu simpliste. Premièrement, parce que la multiplication des interlocuteurs pour les acteurs de prévention du VIH, donc les associatifs, nécessite que des postes entiers soient consacrés à la recherche de financement, au montage de demandes de financement, de rapports d'activité adaptés à chaque interlocuteur, mais aussi aux négociations avec les financeurs privés, dont certains tentent, sans expertise reconnue, d'orienter finalement l'activité dans un sens davantage guidé par des impératifs marketing et économiques. Toutes ces difficultés...
Alors, je suis désolé, oui, je suis obligé de vous stopper. On a bien compris que vous pouviez développer l'argumentaire, mais on arrive là au terme de l'émission. Alors, une toute petite réponse à ma dernière question pour vous, Muriel. Il y a beaucoup d'idées reçues là, sur les fonctionnaires qui se promènent. C'est ambigu d'ailleurs, parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont plutôt une image positive. Bon, c'est les infirmières, par exemple. Mais il y a quand même un fond de discours bon, sur les fonctionnaires. Quelles sont ces idées reçues qui, à vos yeux, il importe de combattre sans relâche?
Les idées reçues, on les entend tous et toutes. Je pense qu'il y a une idée de fainéantise, de flémardise, le fait qu'il y ait le poste à vie qui fait que finalement on est un indéboulonnable. que du coup, ça permettrait aux gens de ne pas travailler. Ce sont des idées reçues. La plupart des gens, là, on voit, souffrent au travail. Les fonctionnaires souffrent au travail. Ils sont eux-mêmes pris, comme tous les autres travailleurs et travailleuses de notre pays, par des questions de quête de sens, d'interrogation du management qui les éloigne profondément du sens réel de leur métier. Donc ça n'est pas réservé au privé. Et ce qui fait qu'il y a une désaffection qu'on voit d'ailleurs sur les concours pour devenir professeur des écoles, une désaffection profonde. C'était la même chose que disait Cyriac tout à l'heure. En fait, ça décourage profondément parce qu'on voit une dégradation des conditions de travail massive.
Très bien. Alors, on a bien compris, chers auditrices et auditeurs, qu'on pouvait poursuivre cet échange avec mes deux invités. Je les remercie une nouvelle fois et puis j'imagine qu'on pourra revenir sur ce sujet avec vous ou avec d'autres et sous d'autres formes. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.